BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est BFM Patrimoine qui ouvre ses portes et vous accueille pour vos deux heures d'expertise quotidienne liées au monde de vos placements. Et on file tout de suite à la bourse pour prendre le pouls de cette première heure de cotation grâce à Antoine Larigauderi. Bonjour Antoine, que se dit-on sur les tables ce matin ?
Bonjour Cédric. On souffle un petit peu, hein, parce que c'est vrai que ces derniers jours, il y a quand même eu énormément de pression, vraiment de pression très très lourde, hein, sur les indices, du fait des inquiétudes autour de la crise énergétique, du fait des tensions sur les taux d'intérêt aussi. Pas oublier que jeudi, on a quand même une réunion de la BCE qui devrait changer un petit peu le paradigme à ce niveau-là encore. On anticipe beaucoup de choses. Bon, dans l'attente, on a des marchés qui essaient quand même de souffler, de se tranquilliser et de pas retomber dans leurs excès du cours du mois de juillet. On était vraiment descendu du côté des 5700 points. On avait vraiment lâché énormément de terrain et on avait commencé par craquer sous les 6000. Et là, globalement, on a plusieurs signes encourageants déjà. On a un plus bas du côté des 6009 points ces derniers jours qui a tendance à tenir, qui a tendance à vraiment servir de support et de signal d'achat pour vraiment redresser la situation. Et puis là, autour des 6100 points, on semble avoir un léger point de fixation à court terme, 6103. On est en hausse donc très légère de 0,17%. Mais enfin, cette hausse, elle a le mérite d'exister et de contrebalancer un peu toute la pression négative qui avait ces derniers jours. On a un Eurostock 50 qui avance de 0,26% et plus 0,41% pour le DAX à Francfort. Et globalement, un marché bon, qui tourne autour de ces points d'équilibre-là, en attendant un chiffre important cet après-midi, l'ISM des services, hein, du côté des États-Unis, sera une deuxième estimation, mais enfin, on va quand même regarder ça de près. Et on a aussi de la pression qui a tendance à s'amenuiser autour des cours du brut. Hier, avec la décision de l'OPEP de réduire sa production de 100 000 barils jour, on a eu une forte pression à la hausse, mais on ne s'est pas installé au-delà des 100 dollars. Hein. Vraiment, on reste sur les niveaux de ces derniers jours. 95,70 là en ce moment pour le Brent de mer du Nord et juste sous les 90 pour le brut léger américain. Alors, si la pression s'amenuise un peu côté obligataire, s'amenuise un peu côté pétrole, ben, ça permet à certains secteurs de se refaire une santé. Et c'est notamment le cas des valeurs cycliques qui ont été largement attaquées, notamment lors de la séance d'hier. Là, on a Saint-Gobain qui se redresse, qui gagne 1,3% à 39,84 €. On a Alstom, plus 1% à 20,06 €. On a aussi le secteur auto, hein, Forcia, qui a été la valeur la plus vendue du SBF 120 hier, se redresse d'1,5% à 13,38 €. On a Renault, plus 1,03 € à 28,05 €. Et puis, valeur cyclique, le spécialiste de l'inox, Aperam, qui signe la plus forte hausse du SBF 120, à plus 2,8% 25,80 €. À la baisse, on a Total Energy, hein, qui recule d'1,2% à 52,54 €. Petite inversion de tendance, malgré la fermeté des cours du brut, sans doute aussi la volonté de prendre quelques petits profits. Thales recule de 0,89% à 121,90 €. Mais voilà, l'environnement de taux qui reste tendu fait pas forcément les affaires du secteur techno, des valeurs de croissance qui sous-performent quand même légèrement le reste du marché. On a ST Micro qui reste en baisse d'ailleurs, moins 0,42% à 34,59 €. Prise de profit sur l'ensemble du secteur de l'énergie, notamment avec Vallourec qui recule d'1,7% à 10,42 €. On a CGG, moins 2,04 € à 95 €. C'est la plus forte baisse du SBF 120. Le CAC 40, donc plus 0,18%, 6104 points. Notez les volumes d'échanges particulièrement faibles. On est sous les 300 millions d'euros d'actions négociées. L'euro, 0,9972. Cédric.
Antoine Larigauderi, que l'on retrouve chaque matin à l'entame de l'émission pour cette première heure de cotation à Paris. Et tout de suite, c'est l'Info Éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, c'est fait. Les stocks stratégiques de gaz sont à leur niveau maximum, annonce de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher ce matin. Ces stocks de gaz représentent 50% de la consommation hivernale en France. L'exécutif réfléchit à un prélèvement sur les bénéfices des énergéticiens. Emmanuel Macron s'est dit favorable hier à une contribution exceptionnelle applicable aux entreprises dont les coûts de production sont très inférieurs au prix de vente sur le marché. Objectif objectifs financés, le bouclier tarifaire, un prélèvement qui sera mis en place même si l'Union européenne ne le décidait pas pour l'ensemble des États membres. Dans le secteur immobilier, la hausse des prix dans l'ancien ralentit au deuxième trimestre. Les prix progressent de 6,8% sur un an, selon l'indice notaire INSEE. Ceux des maisons augmentent nettement plus vite que ceux des appartements et plus vite en province qu'en Île-de-France. À Paris, d'ailleurs, les prix des appartements sont toujours à la baisse, moins 0,8%. Les pilotes de Lufthansa, à nouveau en grève demain et jeudi. Le mouvement concerne aussi l'activité fret de la compagnie. La semaine dernière, déjà, plus de 800 vols avaient été annulés. Les pilotes réclament une augmentation salariale de 5,5% et une compensation automatique de l'inflation. Porsche, bientôt de retour en bourse. Volkswagen, propriétaire du constructeur de luxe, a donné son feu vert pour une IPO d'ici la fin de l'année, malgré le contexte très incertain sur les marchés. Il s'agit de l'une des plus importantes cotations jamais réalisées en Europe. Porsche est valorisé entre 60 et 85 milliards d'euros, selon Bloomberg. Au Royaume-Uni, Liz Truss s'installe à Downing Street. La nouvelle première ministre britannique a été choisie hier pour succéder à Boris Johnson. La passation aura lieu cet après-midi et l'annonce de son gouvernement conservateur se fera dans la foulée. Et puis en France, après les ministères, Julien de Normandie, recruté par une start-up. L'ancien ministre de l'Agriculture intègre Sweep, une jeune pousse qui aide les entreprises à réduire leurs émissions carbone. Julien de Normandie sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Ce sera ce soir à partir de 19h30 sur BFM Business. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure 11h pour le suivi de l'info. Et nous, on rentre dans le dur de vos placements.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
On rejoint Charles-François qui nous attend chez Flornoy. Bonjour Charles.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'Equasense. Dites-nous d'abord un petit peu qui est Equasense.
Absolument. Alors Equasense, déjà, c'est le nouveau nom d'une société qui était auparavant connue sous le nom de Pharmagest Interactive. Et c'est aujourd'hui le numéro un français de l'édition et de l'intégration de logiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux et aux établissements de santé en règle générale, mais essentiellement pour les pharmacies malgré tout. Et c'est une société qu'on apprécie à plusieurs égards. Le premier, c'est au niveau de sa stratégie et de son positionnement, puisque dès sa conception, en fait, la société a été faite pour qu'elle soit contrôlée aux deux tiers du capital par une coopérative de pharmaciens, donc par les clients en direct. Donc c'est déjà un bon moyen d'être au plus proche des clients finaux. Et cela fonctionne puisque la société et ses logiciels sont aujourd'hui leaders avec plus de 40% de part de marché. Et ça fait d'Equasense le premier fournisseur de logiciels de gestion pour les pharmacies en France. Et avec un business model assez créateur de valeur puisque la société publie régulièrement près de 30% de marge d'EBITDA et plus de 20% de marge nette. Et essentiellement grâce à une grande récurrence de l'activité, une bonne visibilité puisque les deux tiers du chiffre d'affaires sont en effet récurrents d'une année à l'autre et couplés à une très très bonne situation financière puisque la société n'a pas de dette.
Pourquoi justement avoir choisi d'en parler plus particulièrement ce matin ?
Alors, parce qu'il y a essentiellement beaucoup de relais de croissance qui vont commencer à naître. Le premier, c'est la digitalisation du secteur de la santé. C'est effectivement le sens de l'histoire, hein, cette digitalisation, parce que ce secteur est quand même assez en retard sur le sujet, notamment dans le transfert de données entre professionnels de santé ou dans le transfert de données entre patients et professionnels. Et cette thématique, elle devrait accélérer grâce, vous en avez peut-être entendu parler, grâce au Ségur de la Santé, un Ségur de la Santé assez vaste, démarré en 2021, mais qui comporte un volet sur justement la digitalisation de cet écosystème, et cela devrait impacter favorablement l'activité d'Equasense. Alors on estime qu'il y a à peu près 20 millions d'euros sur les 5 années à venir qui vont être liés à ce Ségur de la Santé et qui vont doper la croissance justement d'Equasense. Il y a déjà plusieurs référencements liés à ce Ségur qui ont déjà permis à Equasense d'afficher une belle dynamique de croissance, et d'autres référencements sont notamment attendus cette année. Ça, c'est le premier catalyseur. Le deuxième, c'est le développement à l'international, puisque à aujourd'hui, la société est très franco-française. Elle réalise près de 90% de son chiffre d'affaires sur notre territoire. Et cette internationalisation devrait s'accélérer, à commencer par l'Europe dans un premier temps, l'Allemagne, l'Espagne, après l'Italie. Et cela devrait être fait alors soit via des fusions, des acquisitions du M&A. Je l'ai dit en introduction, la société n'a pas de dette, donc elle pourrait s'endetter pour accélérer un petit peu sur ce sujet-là. Ou alors, d'une manière un petit peu moins capitalistique, elle pourrait procéder à des partenariats. Ensuite, dernier point, un point un petit peu plus boursier celui-ci, il concerne le market timing concernant ce type de valeur, puisqu'on a aujourd'hui affaire avec Equasens, c'est une valeur de croissance qui a une valorisation assez élevée et du coup le titre a perdu près de 35% sur ses plus hauts de l'année dernière en 2021. Cette baisse, elle est liée à la hausse des taux hein, qui a modifié le modèle de valorisation de ce type d'entreprise de croissance. Et malgré tout, les ratios de valorisation sont encore élevés à ce jour hein, puisqu'on se paye près de 5 fois le chiffre d'affaires. Mais c'est à mon sens vraiment le prix de la qualité puisqu'on a une société qui associe le pricing power hein, avec sa part de marché de 40%, une bonne récurrence, donc une bonne visibilité dans cet environnement, c'est assez notable, une très bonne génération de cash et une bonne santé financière, pas de problème avec la hausse des taux vu que la société n'a pas de dette. Donc sur ces niveaux, ça pourrait représenter un bon point d'entrée.
Bon, malgré tout, on se souvient hein, quand on regarde notamment le graphe que début 2021, on flirtait avec les plus hauts historiques, hein, aux alentours de 120 et quelques euros. Depuis, on a pas mal baissé, mais on reste sur longue période quand même dans le vert, que ce soit sur 3 ou sur 5 ans. Aujourd'hui, quel objectif de cours on peut regarder ?
Si on regarde le consensus Bloomberg, il est assez bullish puisque les analystes qui suivent la valeur ont un objectif de cours de 115 euros. Donc ça fait près de 50% de hausse sur le cours actuel.
Et on reviendrait tutoyer les plus hauts.
Absolument, on reviendrait sur les plus hauts, mais d'ici là, le chemin est long et il faudra absolument pas décevoir sur la croissance, puisque même sur ces niveaux, la valorisation est élevée. Mais on est plutôt confiant là-dessus, puisque si on regarde la dernière publication du chiffre d'affaires du premier semestre, la croissance est affichée à plus de 10% avec toutes les divisions en progression. Donc malgré les événements actuels, la croissance se maintient et c'est un signal assez favorable.
Merci beaucoup Charles, François et Flornoy qui nous accompagnaient ce matin sur Equasens, qui cote 77,50 ce matin, hausse de 0,9%, et donc ce consensus des analystes qui vise 115,70. Le CAC 40, lui, est à l'étal, 6090 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Irina Topasseri nous attend chez AXA-IM. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Et nous, on attend la Banque Centrale Européenne qui doit se réunir. A priori, 75 points de base, ce serait un de ses, voire son plus gros mouvement.
Eh oui, c'est un peu, je dirais, presque préannoncé parce que la rhétorique des membres du Conseil des gouverneurs résonne assez clairement sur ce 75 points de base qui devrait être donc implémenté dès la réunion de jeudi. Peut-être que seul Philippe Lane, là, donc l'économiste en chef de la BCE, reste une voix un peu en particulière qui lui plaide plutôt pour le maintien d'une cadence constante, on va dire. Donc on va dire entre les lignes que ça suppute un 50 points de base. Mais enfin bon, je pense que les 75 points de base sont assez acquis parce que nous l'avons vu, l'inflation au mois d'août, elle nous a encore surpris à la hausse, c'est-à-dire qu'on l'attendait élevée, mais là, elle a accéléré au-dessus du consensus, elle a accéléré par rapport au mois de juillet. Et je pense que ce qui inquiète encore plus le Conseil des gouverneurs, c'est que l'inflation sous-jacente accélère. On voit bien qu'en fait, les prix des biens industriels non énergie, hein, donc non liés au secteur de l'énergie, accélèrent. Donc, en quelque sorte, vous avez des entreprises qui arrivent à passer très facilement, en tout cas pour l'instant, la hausse des prix de l'énergie et puis la baisse de l'euro sur les prix finaux à la consommation. Donc, vous avez effectivement une situation où le pic d'inflation est peut-être pas loin, il est peut-être au mois de septembre, enfin une inflation qui restera assez élevée. Nous, on l'attend autour de 8,5% en fin d'année. Donc, vous voyez, ça reste très, très élevé. Et donc, la BCE s'inquiète aujourd'hui d'un désancrage des anticipations d'inflation. Donc, elle est attendue de répondre plutôt plus vite, hein. Pas nécessairement augmenter le total, si vous voulez, du nécessaire de resserrement monétaire sur ce cycle, mais peut-être l'avancer plus rapidement. Et dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, il faut se rappeler que dans la zone euro, les délais de transmission de la politique monétaire sont plutôt plus lents. Vous savez, au sein de la zone euro, beaucoup de pays ont des prix immobiliers à taux fixe, et les banques restent toujours au cœur du financement des entreprises. Donc effectivement, la BCE, elle est là pour donner un signal, justement, sur les anticipations d'inflation.
On sait que cette Banque Centrale Européenne, elle tient sa réunion avant les deux autres, entre guillemets, notamment avant la Fed et la Banque d'Angleterre. À Jackson Hole, on a compris qu'il y avait une espèce d'unanimité, d'union sacrée qui était scellée entre ces grands banquiers centraux pour essayer de faire la peau à l'inflation. Il y a de quoi y croire, ou bien si on voit la Banque Centrale Européenne remonter de 75 points de base son taux, et puis que dans les heures qui suivent, l'euro continue de s'effriter, voire plus, est-ce qu'on sera obligé de constater qu'il y a un problème de crédibilité ?
Je ne sais pas si on peut tout de suite jeter comme ça l'éponge sur la crédibilité. Je pense qu'effectivement, vous savez, la BCE est là en face d'elle. Effectivement, elle voit comme nous une récession se profiler avec tout ce sujet, ce choc exogène qui vient des prix du gaz. Mais justement, je pense que c'est là où elle achète sa crédibilité en quelque sorte, c'est qu'elle ne répond pas à un choc de court terme, si vous voulez, un choc actuel aujourd'hui, qui est d'ailleurs exogène, comme je le dis, donc elle n'y peut pas faire grand-chose. Elle, au contraire, elle essaie de donner un signal sur la formation des anticipations d'inflation. Donc, en gros, elle se préoccupe de donner un signal à ceux qui participent aux mécanismes de prix sous-jacents. Et là, je pense, j'entends les employeurs, les syndicats, qu'en fait, elle sera là pour lutter contre les pressions inflationnistes à moyen terme, au-delà du ralentissement actuel. Donc voilà, d'accord. Donc en gros, elle se positionne autrement. Donc, parce qu'on peut, on peut aussi se dire que la récession à venir fera l'affaire sur l'inflation. Mais c'est pas ça. Les prix de l'énergie resteront élevés et peut-être y refleront à un moment donné. Mais enfin bon, ce qu'elle essaie de viser ici, la BCE, et je pense qu'elle achète aussi sa crédibilité là-dessus, c'est justement un ancrage d'anticipation d'inflation à moyen terme, alors que les gouvernements, eux, soutiennent la demande à court terme à travers leur politique fiscale. Donc voilà le duo politique monétaire et politique fiscale probablement à venir.
Irina Topasseri et AXA IM qui nous accompagnaient ce matin. Merci Irina, bonne journée. Merci. Sur le marché, ce CAC 40 qui est en petite baisse, -0,15, 6084 points.
Votre rendez-vous avec Otari, solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marie Cardoroy.
Bonjour Cédric.
Le retour des grands institutionnels sur l'immobilier résidentiel a-t-il fait long feu ? Les derniers chiffres officiels montrent une nette baisse des investissements en la matière au deuxième trimestre.
Mais oui, vous savez, bureaux, commerce, c'était des investissements rentables, mais risqués. Et du coup, ça avait poussé beaucoup d'institutionnels à revenir sur le résidentiel. En particulier depuis la crise sanitaire. Vous savez, on s'est beaucoup posé la question... Qui a besoin de bureaux à l'heure du télétravail ? Qui a besoin de commerce à l'heure des confinements ? Alors que se loger, on en aura toujours besoin, quelle que soit la crise qu'on traverse. Et donc, effectivement, on avait vu une accélération du retour des institutionnels sur l'immobilier résidentiel. Et on l'a particulièrement vu l'an dernier, où les investissements des zinzins, comme on les appelle, avaient culminé à quasiment 7,5 milliards d'euros sur l'année 2021. Il faut bien voir que c'est deux fois plus qu'avant la crise sanitaire. On oscillait autour de 3,5 milliards en 2018 et en 2019. Donc on a vu cette explosion, ce retour en force des institutionnels sur l'immobilier résidentiel. Mais patatras.
J'ai aucun mais.
Mais oui, patatras. Vous avez vu, je l'ai bien fait, non ? Alors, j'allais dire ça s'effondre. Quand même, ça chute de manière assez vertigineuse sur ce deuxième trimestre, puisqu'on n'est plus qu'à environ 560 millions d'euros d'investis par les grands investisseurs sur cet immobilier résidentiel. Et en fait, 560 millions d'euros, c'est quasiment 50%, 47% de moins qu'il y a un an sur cette même période. Alors, quand on interroge des spécialistes, ils nous expliquent que c'est le contexte marché de taux, etc., qu'en réalité, c'est tout l'immobilier et pas seulement l'immobilier résidentiel qui est touché. Ça, c'est la première analyse. On verra de toute façon ce qui se passe sur les trimestres suivants.
Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Les institutionnels ont freiné leurs investissements ?
Oui, est-ce que c'est la question ? Est-ce que vraiment sur tous les créneaux, on a une baisse des investissements ? Force est de constater que jusque-là, non. Effectivement, vous avez au deuxième trimestre cette baisse de l'investissement dans le résidentiel. En revanche, sur le tertiaire, donc je refais mon sketch, bureau, commerce, entrepôt logistique, etc. Là, ça repart en force. Vous avez 6,5 milliards d'euros précisément qui ont été investis dans cet immobilier d'entreprise au deuxième trimestre. C'est 70% de plus qu'il y a un an. Plus spectaculaire encore, la reprise sur la région Île-de-France. Là, sur un seul trimestre, le deuxième, donc toujours, on a eu plus de 4 milliards d'euros qui ont été investis. Et c'est 90% de plus qu'il y a un an à la même période. Donc clairement, pour l'instant, les institutionnels, ils semblent cibler davantage leurs investissements sur l'immobilier d'entreprise, plus que sur le logement. Privilégier donc davantage le rendement. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, et j'ai envie de dire, je vais essayer de voir les choses du bon côté, ça veut dire qu'ils privilégient de nouveau le risque plutôt que la sécurité moins rentable. Et c'est peut-être notre façon à nous de voir le verre à moitié plein dans cette baisse de l'investissement dans l'immobilier résidentiel. On verra quand même ce qui se passe ces trimestres prochains.
Marie Cœur de Roy, qui ausculte chaque matin ce monde immobilier. On accueille maintenant Stéphane Descartiers pour la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Cédric, bonjour Marie,
bonjour à tous. Stéphane.
Période de rentrée, et on profite de votre œil pour regarder un petit peu comment appréhender le marché.
Ouais, c'est vraiment une rentrée bizarre, c'est vraiment un drôle de marché, puisqu'on a du bon, du très bon et du très mauvais. On a des aspects quand même très anxiogènes, c'est un petit peu le yin et le yang, je trouve, moi, sur cette rentrée. Vraiment un drôle de marché, avec, alors, du bon, voire même du très bon. L'inflation, effectivement, alors l'inflation c'est pas bon, mais effectivement une inflation quand même galopante, où on va faire 6-7%, peut-être plus. Et des taux d'emprunt pour l'immobilier encore extrêmement bas, puisqu'on arrive encore à négocier du 2%, voire un petit peu moins. Donc, c'est une situation jamais vue depuis l'après-guerre. On emprunte à 3 fois moins que l'inflation, alors que l'immobilier prend l'inflation. Hein, depuis, là aussi, l'après-guerre, l'immobilier a toujours pris l'inflation, avec plus ou moins de latence. Et alors, si on fait du locatif, en plus, c'est particulièrement intéressant parce que les loyers suivent l'inflation.
Bon, ils sont plafonnés quand même, on rappelle. Hein.
Alors, ils sont plafonnés, mais quand même à 3,5, c'est quand même pas mal.
Bien
du
sûr,
tout.
Mais il faut quand même le rappeler.
Oui, bien sûr. Ils sont capés, on va dire.
Capés, ouais, la hausse est capée.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, mais en quelque sorte, comme je le disais au mois de juillet, investir sur des immobiliers de qualité et à crédit, c'est un peu le loto et que les chiffres à l'avance. Sauf que, là, c'est le moins bon, il y en a qui sont interdits de billets. Il y en a qui n'ont pas le droit d'acheter des billets de loto alors qu'on a effectivement les chiffres à l'avance. Donc, on ne va pas refaire effectivement toutes les catégories qui sont touchées à la fois par le taux d'usure et le HCSF. Mais enfin, en gros, non, globalement, on a les jeunes, les primo-accédants pour qui c'est extrêmement difficile. Les quinquas avec le taux d'usure, notamment.
Pourquoi vous montrez en disant les quinquas, d'assurance. Stéphane?
Non, non, Marie, vous comprenez,
vous d'abord.
Et donc, mais ce qui est quand même effectivement quand même surprenant, c'est que on a, alors les marchés ont des aléas de marché, le marché immobilier effectivement le premier, mais là on a un marché qui est freiné par la volonté des pouvoirs publics. Donc ça faisait quand même très longtemps qu'on l'avait pas vu, et notamment moi je vois venir quand même un bug majeur, c'est que aujourd'hui on exclut beaucoup de primo-accédants, notamment par rapport à des taux d'emprunt effectivement, et puis des apports personnels.
Ils ont pas le petit matelas de la revente pour
notamment, donc les primo-accédants, notamment les jeunes, sont extrêmement touché et impacté, mais en même temps, avec les données du HCSF, la suppression du calcul du reste à vivre, on freine les investisseurs. Donc, si les jeunes ne peuvent pas acheter, mais que les investisseurs n'investissent pas pour louer, notamment aux jeunes, et alors a fortiori si les institutionnels plongent, et puis c'est pas comme si on allait sortir des millions de logements du parc avec les fameuses
passoires
thermiques, là on va vers un bug majeur.
Une crise du logement,
je crois que toutes les conditions réunies effectivement pour un bug majeur.
Là c'est le panorama. Ouais, mais vous avez des solutions, parce que souvent vous nous trouvez quand même.
Quittons la France.
Bien sûr. Non.
Genève.
Non. Effectivement. Alors il faut faire effectivement, il faut se creuser la tête aujourd'hui. Il faut essayer de trouver des solutions pour contrer ça. Le taux d'usure, on est quand même... Bruno Le Maire intervenait ce matin sur BFM pour dire que c'est bien conscience que ça bloquait. Là, ils peuvent plus dire « Ah mais excusez-nous, on n'avait pas vu ». Donc peut-être que le taux d'usure, ça va bouger un petit peu. Mais enfin, en tout cas, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir quand même un crédit? Quelle solution, quelle stratégie on peut avoir en anti-inflation, notamment avec l'immobilier? Alors, la première chose, il est peut-être nécessaire de faire des arbitrages sur son patrimoine. Et des arbitrages, parfois, même par rapport à son compte courant. J'ai vérifié la semaine dernière, je n'en revenais pas, vous le savez certainement, Cédric, il y a 500 milliards d'euros sur les comptes courants des Français. 500 milliards d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui sont...
Jean-François Fillon dit c'est épargné avec ses pieds.
Non mais voilà, c'est exactement ça. 500 milliards d'euros sur les comptes courants, sur les comptes des Français, donc qui vont fondre comme neige au soleil cette année, hein, puisque bah, voilà, c'est 100 qui va valoir 92 ou 93 à la fin de l'année, donc c'est parfaitement idiot. Donc cet argent sur les comptes courants, bah, un apport personnel sur un investissement immobilier, c'est quand même extrêmement rentable, est quand même beaucoup mieux que sur son compte courant. Ensuite, on peut arbitrer également sur les 1800 milliards d'assurance-vie des Français, dont une grosse partie quand même là aussi en fonds euros. Bon, les fonds euros, on le sait bien, ça va faire les bons contrats vont faire du 2% avec 6 ou 7% d'inflation. Là, c'est pareil, ça va fondre quand même considérablement. Et puis, sur les assurances-vie, je dirais qu'il est peut-être temps d'arbitrer pendant qu'on peut. Il serait peut-être temps, effectivement, de regarder à mettre, alors pas toutes vos assurances-vie, mais une partie de vos assurances-vie en apport pour investir dans l'immobilier, parce que, vous le savez, Sapin 2, ça a été fait un peu pour la situation qu'on connaît actuellement.
Qu'on pourrait connaître.
J'ai lu quand même un certain nombre d'articles ces derniers temps. Quand on pense que le livret A va faire mieux que les assurances-vie en moyenne, on peut être à même de penser que bah, peut-être certains... Donc, bah, je dirais que les assurances-vie...
La loi Sapin 2, elle prévoit en cas de... Voilà. Turbulence, de grosses turbulences sur le marché des taux, de bloquer les retraits sur les contrats d'assurance-vie pendant une période de 6 mois renouvelable.
Bah, tout à fait. Donc bah, voilà, je dirais que bon, pour ceux qui sont peut-être tentés, bah, il est peut-être effectivement temps de le faire. Surtout que le gros avantage, c'est qu'avec de l'apport, quand vous mettez 20 ou 30% ou 40% d'apport, vous avez une mensualité qui est beaucoup plus faible. Donc vous pouvez faire de l'autofinancement. Alors déjà pour votre résidence principale, bien sûr, c'est intéressant, mais si vous faites du locatif, vous arrivez à faire de l'autofinancement sur des petites rentabilités, entre guillemets. Avec du 4%, vous faites de l'autofinancement. Ça veut dire que vous arrivez à faire de l'autofinancement, y compris sur des quartiers bourgeois. Vous n'êtes pas allé obligé d'être en zone détendue ou dans des secteurs populaires pour faire de l'autofinancement, pour aller chercher du 6 ou 7%. Là, avec un gros apport, bah, vous pouvez faire de l'autofinancement dans des quartiers bourgeois, dans des quartiers ultra tendus. Donc bah, ça aussi, en centre-ville, de grandes métropoles, etc. Donc ça, c'est quand même un avantage. Donc première solution, mettez plus d'apport. Deuxième solution, si vous n'avez pas d'apport, allez taper vos grands-parents, vos parents, allez-y.
C'est une expression, hein.
Oui, bien sûr. Voilà.
Figurez.
Allez gratter 20, 30 000, 40, 50 000 euros ou plus si vous pouvez. Les seniors et au-dessus sont effectivement ont des moyens, ont de l'épargne, parfois placés, y compris sur des supports qui sont quand même pas terribles. Donc allez gratter plutôt que de subir. Là aussi, peut-être aller gratter autour de soi, dans sa famille. Vous le savez aussi, il y a une exonération jusqu'à 100 000 euros par parent, par enfant, et même grands-parents, petits-enfants, c'est 32 000 euros, 31 800 euros, je crois. Donc il y a de gros avantages, là vous n'avez aucune taxe simplement pour ces donations, donc là aussi ça peut vraiment valoir le coup plutôt que de rester bloqué. Donc, et je dis aux jeunes, effectivement, amis jeunes, va voir tes yeuves. Eux, ils ont connu l'inflation. Je parle comme les jeunes. Si, j'ai des jeunes à la maison, je sais, ils parlent comme ça. Va voir tes yeuves. Ils ont connu l'inflation. Eux, ils pourront t'écouter peut-être avec une oreille attentive.
C'est vrai que certains ont connu des inflations à deux chiffres.
Ouais, tout à fait.
Bon, ben voilà quelques idées à avoir sur ce marché IMO et sur les solutions que l'on peut mettre en place pour se placer correctement. Merci beaucoup.
Avec
Stéphane,
plaisir.
Stéphane Descartiers pour la Maison de l'Investissement. Merci Marie, à demain.
À demain.
Pour le Club IMO, oui. Dans un instant, on donne la parole à nos traders et puis n'oubliez pas bien évidemment les replays qui vous attendent sur notre site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Tous les matins à 10h30, c'est votre rendez-vous avec deux traders, histoire d'avoir vous aussi votre petite note technique, graphique pour gérer au mieux vos placements sur les marchés financiers. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Romain Daubry au sein de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. On commence avec vous.
Bonjour.
Romain. Comment percevez-vous le marché? Quels sont un petit peu les seuils, les résistances que vous identifiez?
Bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors on perçoit le marché de façon très très creuse. Il y a vraiment très peu d'intérêt sur le marché. On voit des volumes qui sont inférieurs à 3 milliards globalement sur l'indice parisien quasiment tous les jours depuis plus d'un mois. Sur le futur CAC 40, on voit que le nombre de contrats ouverts est de 250 000. La moyenne, c'est plutôt aux alentours de 300, 330 000 contrats futurs ouverts habituellement. Donc pas beaucoup d'intérêt, des opérateurs très en retrait. Et en revanche, on a des signaux intéressants du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40, puisque dans toute la séquence baissière qui a suivi l'échéance des marchés dérivés de d'août, et donc l'ouverture des marchés dérivés de septembre depuis le 19 août, eh bien on avait connu de la pression baissière et 19 000 contrats futurs ouverts dans cette séquence baissière. Et hier, alors que la journée était creuse, que les marchés américains étaient fermés, eh bien on a vu enregistrer la clôture de 8 000 contrats futurs, c'est quasiment la moitié de la position ouverte, et ce dans une séance de baisse. Donc ça, c'est un signe de diminution de la pression baissière, qui n'était pas déjà énorme, mais qui était construite tout au long de la baisse. Donc les vendeurs conservent quand même la main, mais ils ont très, très nettement diminué leur pression. Malheureusement, ça n'est pas le cas sur l'Eurostox. L'Eurostox, lui, il a baissé globalement depuis cette échéance de près de 8%. Et la position ouverte, elle s'est étoffée de 6,5% dans cette séquence baissière, dont plus de 3% la semaine dernière. Donc, et hier, on n'a pas eu de diminution de la pression baissière sur l'Eurostox. Elle s'est même un tout petit peu renforcée. Donc, un peu de mieux du côté du futur CAC 40, mais pas beaucoup globalement du côté de l'Eurostox. Donc, à surveiller des marchés qui sont encore fragiles et toujours à la main des vendeurs, même si on le dit, l'intérêt est très faible. Du côté des options, on a des portefeuilles qui sont couverts sur les niveaux actuels, mais pareil, une position ouverte qui est très faible, qui est de l'ordre de la moitié du nombre de contrats d'options ouverts habituellement à la même période. Donc, des opérateurs qui sont prudents, sans plus, mais on voit que la volatilité reste haute, donc il y a toujours de la méfiance dans ce marché. Alors, les critères, évidemment, c'est l'attente à très court terme de la BCE jeudi, et puis globalement des critères météorologiques qui font que le marché est dans un brouillard important pour les jours et probablement les semaines à venir. Donc on s'achemine probablement vers un grand trading range, et pour l'instant on est en train de préserver des niveaux d'alerte importants. Donc sur le CAC 40, c'est 5838 6036 qui était la zone d'accumulation de mi-juin à fin juillet, dans laquelle on a travaillé pendant 5 semaines avant d'accélérer à la hausse. Ce niveau, il est vraiment extrêmement important à préserver au risque d'une accélération baissière franchement plus marqué. Pour l'instant, les petits signaux qu'on a sont qu'on préserve ce niveau et qu'on s'installe au-dessus de 6036, donc c'est plutôt mieux. On a un petit range 6036-6134 qui est travaillé ce matin, qui est important. Ce sont des deux niveaux de support et de résistance vraiment majeurs. En très court, on a donc sous 6036, 6012 et puis 5963 à préserver au risque d'aller chercher donc 5838 plus bas. En haut, notre cible et le niveau à déborder, franchement, c'est le gap du 1er septembre qu'on a comblé déjà, qu'on a testé plusieurs fois, mais qui est situé au-delà de 6096,5 pour pouvoir donc s'affranchir de la résistance à 6134 et aller chercher pourquoi pas des extensions 6171 voire 6249. C'est un peu le mieux qu'on attend dans ce marché-là pour revenir en neutralité de moyen terme. On en est loin, ce serait au-delà de 6315.
Voilà quelques idées proposées par Romain Daubry, Jean-Louis Cussac. Quels sont vous aussi les repères que vous placez dans la séance du jour?
L'idée de vendre reste d'actualité, avec toujours le thème essentiel de mes interventions, c'est de dire que le relais n'est pas évident, que je ne vois pas d'indication qui pourrait me permettre de penser que le marché puisse casser les 6000 facilement et puis aller chercher le bas de la zone 5008. Non, ça va pas dans ce sens-là. Donc, vous voyez, hier, il a rebondi. Aujourd'hui, il a démarré fort. Bon, ça n'empêche pas de faire ce matin plus 0,9 par rapport au plus bas. Derrière, il repère, enfin, même plus 1. Là, il repère 0,9 par rapport à son plus haut. Il ne sait pas où aller. Et en effet, Romain a cité les volumes de clôture. Mais là, vous vous rendez compte, ce matin, hier, on était à peu près à 600 millions. Là, on est à 320 millions. Donc, il y a un volume extrêmement faible. Et une hyper méfiance. On est toujours avec des volatilités implicites aujourd'hui à 22-23, ce qui est quand même assez fort, ce qui montre qu'il n'y a pas de complaisance. D'ailleurs, cette absence de complaisance me fait penser que, justement, on ne peut pas attendre de relais à la baisse, puisque l'ensemble des acteurs, d'abord, est prudemment positionné et extrêmement protégé par des achats de put, notamment. Donc, c'est vrai que 310 millions, on peut se dire, mais on est déjà dans l'attente de la Banque Centrale Européenne. Non, peut-être pas. Mais enfin, c'est vrai qu'on peut se poser déjà cette question. Là, difficile, en fait. Moi, je cherche. Alors, on a vendu ce matin vers 118. Oui, c'était large. On pouvait vendre entre 118, 140, même jusqu'à 175. L'information, c'est la plus proche, si vous voulez, de la neutralité, c'est 250, voire 320. Donc 315, 320, c'est, je rejoins là avec Romain, c'est le même niveau. Après, sinon, ça serait beaucoup trop loin. Et puis, encore une fois, à la baisse, peu de chances de voir un marché se casser la figure. Alors, c'est facile quand ça remonte de le dire. Moi, je l'ai aussi dit quand on était proche des 6000, avec toujours pareil, le risque d'avoir tort, mais c'est pas grave, on agit en conséquence. En tout cas, le scénario, si vous voulez, c'est qu'en effet, on puisse continuer, comme ça, à évoluer dans un training range assez large, avec beaucoup de nervosité, mais surtout, beaucoup de confusion. On sait pas quoi faire, on sait pas quoi jouer, tout le monde cherche de l'énergie, tout le monde se prépare à l'hiver, il y a des sociétés qui sont très très inquiètes, il y a beaucoup, globalement, d'inquiétudes au sujet de l'énergie. Mais vous voyez, les marchés, quand même, résistent énormément. Donc, quand on revient comme ça sur des points bas, ben, moi, je fais des stratégies d'options. On peut racheter des calls, par exemple, profitant du fait que la volatilité d'un call un petit peu plus éloigné, ben, elle n'est pas à 23, mais elle est peut-être à 19-20. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez, on n'est pas dans les grandes manœuvres. Voilà. Et l'euro-dollar, ben, lui aussi, et ce que je vous disais hier, relais pas évident à la baisse. Eh ben, il a rebondi. Et là, on vend... on a vendu sous 0,990. Voilà, bon, c'est pas non plus quelque chose d'évident à réaliser, si vous voulez, mais c'est l'idée que la tendance reste baissière.
Merci à tous les deux, donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry chez Bourse Direct, que l'on retrouve tout à l'heure depuis la cellule Info d'Experts à 11h30 pour suivre cette séance assez hésitante pour le moment, moins 0,03, 6091 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Oui à une contribution européenne venant des entreprises énergétiques. C'est la position défendue hier soir par Emmanuel Macron. Cela ressemble à une taxe sur les superprofits, non ?
C'est un peu le parfum, mais en fait, voilà, c'est un peu différent tout de même. On sent que l'idée française comme l'idée allemande, ça ressemble beaucoup plus à ce qui s'est passé avec EDF. Vous remarquerez qu'EDF, le bouclier tarifaire leur coûte 8 milliards d'euros. C'est pas une taxe. Ça s'est fait différemment. Ça s'est fait par une contrainte à vendre des mégawattheures à perte au fameux prix historique du nucléaire. Et donc, c'est pas un système de taxe, c'est pas la fiscalité qui a été utilisée. D'ailleurs, le ministre des Finances allemand, il dit « je ne veux pas utiliser la fiscalité ». En fait, le principe franco-allemand, c'est de cibler ceux qui gagnent beaucoup. Parce qu'ils produisent de l'électricité avec autre chose que du gaz, avec du charbon, avec de l'eau, avec du vent, avec du nucléaire, avec du soleil. Et vous savez qu'en Europe, c'est la dernière unité produite au gaz qui fixe le prix de l'électricité. Et donc tous ceux qui produisent avec autre chose que du gaz produisent beaucoup moins cher, par contre vendent très cher. Et le différentiel entre ce qu'ils ont payé pour produire et ce qu'ils récupèrent au moment où ils vendent, c'est vrai qu'en ce moment, ça représente des sommes très importantes. Donc c'est cette fenêtre-là, exclusivement d'ailleurs sur les groupes d'énergie, c'est là où les choses sont à peu près clarifiées, qui sont dans le collimateur des Allemands et des Français. Alors après, solution européenne, c'est la préférence franco-allemande. S'il n'y a pas de solution européenne, on sent bien que les pays mettront en place des solutions nationales.
Du coup, il faut préférer une mise à contribution des gagnants de l'inflation énergétique ou une taxe classique ?
Je pense que la position française, depuis le début, est quand même plutôt assez bonne. Elle est assez équilibrée, assez efficace, assez rationnelle. Bercy a toujours dit « baisser les prix des consommateurs ». C'est ce que fait Total Energy, encore jusqu'à la fin de l'année, en ajoutant des centimes de baisse aux centimes de ristourne accordés par l'État. Après, payez mieux vos collaborateurs. Bon, on va voir ce qui va se passer à l'automne, c'est là où les négociations vont intervenir. Il est probable qu'il y aura des hausses de salaire dans ces entreprises très bien portantes. Et puis aussi, investissez dans des projets verts. C'est exactement ce qu'a annoncé il y a 48 heures CMA-CGM. Et Bruno Le Maire dit bien, moi je vais relever les compteurs en fin d'année, je verrai bien les engagements qui ont été pris, avec un peu de bon sens. Et si vraiment les comptes n'y sont pas, à ce moment-là, dans le budget, il y a la possibilité de passer dans une phase plus coercitive. Parce que, en fait, la fiscalité, c'est souvent pour des raisons un petit peu morales que c'est mis en avant, mais ça pose quelques problèmes, la fiscalité. D'abord, un pays qui annonce des hausses d'impôts, c'est pas un bon signal économique d'annoncer une hausse d'impôts. Quoi qu'il arrive, peu importe la situation, le mot hausse d'impôts, c'est pas un bon signal économique. Ensuite, ça, on l'a déjà dit, on ne peut taxer finalement en France que des produits réalisés en France. Dans ces multinationales, certaines réalisent quasiment pas de profit en France, voire pas du tout. Total Energy, en 2021, perd de l'argent en France. Par contre, ils en gagnent sur le reste du monde. Et puis, encore une fois, on ne peut pas taxer des entreprises en particulier. D'ailleurs, en Italie, qui a mis en place une taxe à 25%, il y a une vingtaine de recours qui ont été engagés devant la justice administrative pour dénoncer le principe de cette taxe. Et très franchement, il vaut mieux avoir un système de redistribution directe vers le consommateur, comme ce qui se passe avec les prix des carburants, plutôt que de passer par une taxe qui ensuite va aller se perdre et se noyer dans l'immensité du budget de l'État. Éviter la fiscalité pour toutes ces raisons, c'est plutôt préférable. Mais par contre, on sent bien que quoi qu'il arrive, ils vont payer les groupes d'énergie.
Bon, cette idée en tout cas de contribution des groupes d'énergie, c'est une manière, d'entamer la réforme du marché européen de l'énergie, non ?
Je pense. Alors, c'est très compliqué là, la remise à plat totale du fonctionnement du marché européen unique de l'énergie, où donc le prix du gaz fixe le prix de l'électricité. Mais là, on sent bien que avec ce qui se dessine, qui sera donc pas une taxe, peut-être une sorte de plafonnement, ou alors, enfin, on verra comment est-ce qu'ils seront mis à contribution, mais on voit bien qu'on met en lumière, qu'on met au jour, vraiment, les dysfonctionnements du système du marché européen de l'énergie dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Encore une fois, un marché européen qui passe de 85 euros le mégawattheure d'électricité à 1000 euros aujourd'hui, c'est pas un marché optimal, c'est pas un marché qui fonctionne bien. Donc après, comment ça va se passer concrètement? Ben, celui qui produit, par exemple, de l'électricité, s'il fait du renouvelable, on peut considérer qu'il n'aura plus accès à un certain nombre de subventions, ou considérer que comme il fait du renouvelable, eh ben, il a un écart de prix très important entre sa production et le prix auquel il vend son électricité, et que donc on imagine une sorte de plafond sur les marges, voilà, au niveau européen, et qu'au passé ce plafond, eh bien, il y a un phénomène de redistribution qui s'enclenche. Bon, voilà. Ça semble très simple, dit comme ça. Ensuite, je vous laisse imaginer la tuyauterie et le mode d'emploi de ce type de prélèvement. Et puis l'idée qu'on va réussir à aboutir au niveau européen à une solution qui, de toute façon, serait une solution complexe, me semble pas acquise du tout. Je pense que ça va se terminer par des solutions nationales, et peut-être dans certains cas par de la fiscalité, mais c'est sans doute pas le meilleur canal. Alors après, c'est le canal le plus compréhensible pour la population. On taxe les super-profits, là, la formule est choc. Si on commence à expliquer qu'on met un plafond sur les marges et les excédents anormaux liés au différentiel de prix de production par rapport au coût marginal. Bon, bref, vous voyez qu'il y a des formules qui, politiquement, sont plus faciles à manipuler que d'autres.
Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas d'être passé ce matin. Le marché parisien lui reste assez hésitant. On grignote 0,08% à 6098 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Loïc Morland est en ligne avec nous depuis Calmon Partners. Bonjour.
Bonjour Cédric, merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous ce matin. On va parler des levées de fonds, de voir un petit peu ces entreprises que l'on surnomme parfois des licornes, parfois des centaures, voir un petit peu comment ça doit se passer. Doit-on d'abord arrêter avec la course folle à la levée de fonds ?
Oui, très, très bonne question. Moi je dirais qu'il faut plutôt arrêter la course folle à la valorisation, remettre à plat les fondamentaux des méthodes de valorisation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une valorisation surestimée, ça met en péril les futurs tours de financement de la start-up. Exemple, alors je vais être un petit peu technique, mais si une start-up est valorisée 15 fois le revenu annuel récurrent, c'est-à-dire l'ARR lors de ce tour, et l'année prochaine ou dans deux ans, il risque, sauf exception, ce multiple de passer de 15 fois l'ARR à x5, x7, ce qui pourrait causer des problèmes fondamentaux entre les nouveaux actionnaires qui rentrent et les anciens, les existants, voire une implication importante sur la dilution des fondateurs de la start-up. Moi, je dirais la course folle à la levée de fonds, c'est plutôt on met en avant les grandes levées de fonds, mais les plus petites, c'est-à-dire en amorçage, en série A, voire en série B, elles sont de plus en plus difficiles à réaliser pour les entrepreneurs. Pour moi, une levée de fonds doit être réussie, c'est pas un gros mot, c'est signe de création d'emploi. C'est signe d'accélérer le développement de la start-up et de préparer les les futurs tours de financement. Voilà Cédric pour ma réponse.
Malgré tout, je le disais, il y a ces surnoms qu'on leur donne, licorne, centaure. Quels sont les nouveaux centaures?
Oui, exact. Il y en a deux. La dernière, c'est EcoVadis. C'est une centaure qui est à la fois une licorne. Elle permet d'évaluer les performances RSE des entreprises. Après Centaure, il y en a plusieurs. Il y a quand même une autre centaure en France qui est Aircall, téléphonie IP pour entreprises. Après, il est important de bien différencier centaure et licorne. Quelle est vraiment la différence? Une licorne, c'est une société qui est valorisée plus d'un milliard de dollars ou d'euros et qui n'est pas cotée en bourse. Donc, on se focalise sur la valorisation et sur les revenus futurs. Alors qu'une centaure, c'est une entreprise, une start-up qui a dépassé la centaine de millions de dollars ou d'euros de revenus annuels récurrents. Et pourquoi, à mon avis, on met en avant maintenant le centaure et non la licorne? C'est finalement la fin de l'argent facile. On se focalise maintenant sur des... Il ne faut pas oublier que les start-up, ça reste des entreprises. Il faut créer un produit, un service, le vendre et gagner de l'argent pour être rentable. Donc voilà pour la définition de centaure et la différence entre licorne et centaure.
Et pourquoi est-ce qu'il serait plus intéressant pour les investisseurs de regarder justement ces centaures plutôt que les licornes?
Alors, finalement, lorsque pour un particulier ou même pour un family office ou un fonds d'investissement, il est difficile d'investir déjà dans des licornes ou des centaures lorsqu'elles le sont devenues. Après, il y a des acteurs spécialisés comme des opérations de prix IPO. Après, si on a la chance de pouvoir investir dans des licornes ou des centaures, je dirais, licorne, c'est une sortie rapide avec une introduction en bourse, mais ça nécessite d'investir dans un leader incontesté qui a un quasi-monopole. Alors qu'une centaure, c'est a priori moins risqué qu'une licorne, c'est plus valorisable sur le long terme. Souvent, elle a atteint son seuil de rentabilité et le couple produit-marché est également réussi. Finalement, ça résout un vrai problème, alors que la licorne, souvent, c'est pas forcément une société qui est rentable, mais on parie sur son potentiel. Après, choisir d'investir dans une centaure, finalement, le défi, c'est de déceler cette centaure avant qu'elle le devienne.
Alors là encore, quand on parle de ces entreprises, on regarde un petit peu leur nationalité, de savoir quel finalement écosystème national est le plus favorable pour ce type d'investissement. Alors on va peut-être pas partir à l'autre bout du monde, mais concentrons-nous sur l'Hexagone et nos voisins directs. Où est-ce que c'est le plus intéressant, en France, en Allemagne, en Angleterre?
Oui, alors finalement, quand on investit chez les centaures ou dans des licornes, on fait référence au venture capital, c'est-à-dire le capital risque. Et le capital risque, finalement, c'est un segment du private equity, c'est-à-dire l'investissement non coté en bourse. Et historiquement, les deux pays qui sont les plus actifs sont les Britanniques, enfin le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui ont un écosystème plus mature historiquement. Mais la France rattrape son retard. Par exemple, le French Tech a dépassé maintenant les Allemands en termes d'investissement dans les startups. Bon. Et pourquoi? Parce que les startups françaises regardent dorénavant à l'international et ne se concentrent plus uniquement sur l'Hexagone.
Merci beaucoup Loïc. Loïc Morand donc pour Calmon Partners ce matin et ce focus sur ces entreprises en plein boom, licorne, centaure. Vous avez maintenant mieux ces mots en tête en termes d'investissement. Le marché parisien qui reste pour le moment hésitant mais du bon côté de la barrière, plus 0,08, 6097.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille à présent Aurélie Alamijon. Bonjour Aurélie.
Bonjour Cédric.
Pour l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Et on parle de rebondissement, je crois que le mot n'est pas complètement galvaudé, autour du Dutreil. On rappelle d'abord ce dispositif qui est majeur en termes et de vie des entreprises et de gestion de patrimoine.
Oui, exactement. Alors, le dispositif Dutreil, c'est un dispositif qui a une portée fiscale puisqu'il vise à améliorer le coût de la transmission d'une entreprise. Alors là, on va considérer constituée sous forme de société à l'IS, ce qui est souvent le cas, puisque si un certain nombre de conditions sont réunies, on ne taxe au droit de donation ou au droit de succession, puisque ça fonctionne dans les deux cas, que le quart de la valeur de cette entreprise.
Donc c'est extrêmement puissant.
C'est très puissant. Et pour cela, il y a plusieurs conditions à réunir. Premièrement, s'agissant d'une société qui ne serait pas cotée en bourse, qu'une ou plusieurs personnes s'engagent donc collectivement ou unilatéralement à détenir pendant 2 ans au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote de la dite société. Qu'au moment de la transmission par donation ou par décès, eh bien cet engagement soit toujours en cours et soit d'ailleurs mené jusqu'à son terme. Et ensuite, s'enclenche un engagement individuel pris par les bénéficiaires de la donation ou les héritiers, donc de la succession, pendant une durée de 4 ans. Et enfin et surtout, et c'est l'objet de cette actualité, il faut que la société dont les titres sont transmis exerce de façon prépondérante une activité éligible, c'est-à-dire commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, ou une activité de société holding animatrice que la jurisprudence assimile aux premières.
Donc c'est quoi une holding animatrice? Pareil, rappel rapide.
Une holding animatrice, c'est une société qui va participer de façon active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et qui va, le cas échéant, rendre des prestations de services au profit des sociétés du groupe. Ce qu'il va falloir démontrer, si on fait une petite synthèse de la jurisprudence, on en avait parlé l'année dernière, ce qui est important, c'est de pouvoir prouver qu'en réalité et effectivement, c'est bien cette société holding qui définit la stratégie et la politique, les orientations stratégiques qui vont finalement engager les filiales, le groupe de sociétés sur le long terme, ce qui n'est pas toujours évident.
Alors pourquoi donc parle-t-on de loi de finances rectificative et de Dutreil ?
Eh bien tout simplement parce que la loi de finances de cet été, du mois d'août, est venue indiquer que cette condition relative à l'activité de la société devait obligatoirement s'apprécier pendant toute la durée du pacte Dutreil. Et elle précise aussi des modalités spécifiques s'agissant de l'application dans le temps de cette nouvelle précision.
En pratique, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ça signifie concrètement que quand on est en présence d'un engagement Dutreil, alors on va retenir dans la forme classique avec un engagement collectif ou unilatéral, puis un engagement individuel, eh bien que cette activité, donc éligible de façon prépondérante, doit être respectée, doit être remplie dès la signature du pacte jusqu'au terme de l'engagement individuel, pendant toute la durée. Ça, c'est très important.
Et pourquoi, au cœur de l'été, on se met à parler de Dutreil, de conservation de...
Bien, tout simplement parce qu'il y avait eu une décision qui avait été rendue par la Cour de cassation au mois de mai dernier, donc au printemps, et qui, elle, prévoyait au contraire que les juges de cassation ont fait ce qu'on appelle une interprétation littérale du texte de la loi sur le Dutreil d'origine, qui ne prévoyait pas expressément de date à laquelle on devait apprécier cette activité éligible. Et donc la Cour de cassation en a déduit qu'il suffisait qu'au moment de la transmission, donc à un instant T, au moment de la donation ou au moment du décès, cette activité soit éligible, que ça soit respecté à ce moment-là, pour que, en fait, le dispositif soit notamment rempli. Ce qu'évidemment, l'administration fiscale ne partageait pas comme approche.
Ouais. En clair, la Cour de casse, elle avait ouvert un peu la porte à tous les types de jeux.
Complètement.
Et le législateur a dit non, attention, je veux qu'on respecte l'esprit de la loi.
On a contrecarré ça. Ouais. Exactement, l'esprit de la loi, tout à fait. Ce qui était la thèse de l'administration fiscale.
Qui est concerné par ces nouvelles mesures ?
Alors, en la matière, il y a une date clé, une date charnière, qui est celle du 18 juillet 2022.
D'accord.
Qui n'est donc pas celle de la date, de la loi, puisque la loi date du 16 août 2022. Mais 18 juillet, c'est parce que c'est la date de l'amendement qui a été déposé et introduit au projet de loi de finances rectificative pour introduire cette précision sur le Dutreil. Et donc, on a considéré qu'il fallait éviter que les contribuables ne s'organisent entre l'annonce de cette mesure et l'entrée en vigueur effective de la loi. C'est pour ça que ça a été applicable au 18 juillet. Mais pour répondre à votre question, en fait, vont être concernées d'une part les transmissions qui vont être réalisées par donation ou les décès intervenus à partir du 18 juillet 2022, mais également, et c'est là que c'est un petit peu plus surprenant, les transmissions opérées avant cette date du 18 juillet, pour autant que deux conditions soient cumulativement satisfaites à ce moment-là. Premièrement, qu'on soit toujours dans un engagement soit collectif, soit individuel de conservation, et que la société ait toujours une activité éligible à ce moment-là. Ce qui pourrait vouloir dire que si une transmission a eu lieu avant le 18 juillet 2022, par exemple en 2020, qu'on est quand même cependant dans un engagement collectif de conservation ou individuel, mais que la société n'a plus d'activité éligible, on pourrait penser qu'on puisse se prévaloir de la décision de la Cour de cassation et qu'on ne soit pas concerné par ces mesures. Mais il faut rester quand même prudent.
Pour terminer, quel conseil vous avez envie de donner ce matin ?
Le premier, c'est que, comme d'habitude, il faut, en matière de gestion de son patrimoine, de sa fortune, il faut anticiper. Anticiper, notamment au regard de la notion d'animation, parce que c'est quand même quelque chose de complexe et ça prend du temps. Donc, il faut vraiment être certain qu'au moment où le pacte Dutreil est mis en place, et ça de façon continue jusqu'au terme, on soit bien en présence d'une société holding animatrice ou bien d'une société opérationnelle. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que démarche à laquelle nous sommes fiscalistes habitués, c'est qu'il faut tenir compte des intentions du législateur. Aujourd'hui, l'administration fiscale dispose d'une arme importante, qui est la notion d'abus de droit, parce qu'on a en fait... mise en place un acte qui est certes conforme aux termes de la loi, mais contraire aux intentions du législateur. Et donc, il ne faut pas sous-estimer, ces outils-là. Donc, il faut être prudent.
Et juste pour terminer en un mot, vous, justement, spécialiste de cette ingénierie patrimoniale, de ces montages, etc., vous voyez d'un œil plutôt favorable une réaction rapide de législateur comme ça qui décèle un problème dans une jurisprudence et qui se dit il faut qu'on le rectifie.
Oui, c'était prévisible. Ouais. C'était prévisible. Effectivement, eu égard justement à la finalité de la loi qui est Dutreil, qui est de favoriser la stabilité et la pérennité du capital des entreprises.
Aurélie Alamijon et l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Merci Aurélie d'être passée nous voir ce matin. Le CAC lui reprend un peu d'altitude. Qu'en dire ? Eh bien, on va voir Sarah Thirion dans un instant qui nous attend chez Tipeee iCap. Et puis, vous n'oubliez pas les replays qui vous permettent de nous retrouver à tout moment, soit sur notre site, soit via nos plateformes partenaires. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.